Bonsoir messieurs, bienvenue à la Stammtisch. On n'a jamais été autant nombreux autour de cette table. Je vous offre une tournée de café. J'en avais tiré pas mal en préparant des prolongations à rallonge. Finalement, il n'y en a pas eu, mais tenez un café pour chacun. Qu'est-ce que je vous sers d'autre, Klaus?
Garçon, un absinthe, s'il vous plaît.
Absinthe, c'est noté. Jean-Philippe.
Moi, je vais prendre un Minttu. C'est un petit shot d'alcool finlandais parce que je pense que Rayala, il carbure à sable. J'aimerais bien être comme ça.
On en a, parfait, Grégory.
Moi, je prendrais du Hofer, mais juste un doigt, s'il te plaît.
Pas une main.
Laurent.
Moi, un DK, sinon je dors pas. Puis tu mets une petite grappa avec pour bien dormir, justement.
Ça marche. Et puis, je prends déjà quelque chose pour Cyril qui va arriver.
Ouais, une grosse bière Sadé, s'il sera content.
Ça marche. J'arrive dans 5.
La Stammtisch, proposée par le Journal du Jura.
Eh bien voilà, droit pour le début de l'épisode, Cyril Pasch qui arrive en salle de presse du HC Bienne pour cet épisode un peu spécial avec les journalistes qui étaient présents au match lors de l'acte 1 entre Bienne et Zurich. Vu que on est beaucoup autour de cette table, je propose très simplement que chacun son tour, on se présente au micro pour qu'on reconnaisse les voix qu'on entendra. On peut commencer à ma droite.
Oui, bonsoir Cyril Pasch, de la Stammtisch en fait.
Parfait.
Laurent Kleissel, spectateur.
Grégory Beau de Blick et Colfax.
Exact, un autre podcast.
Oui. Oui. Jean-Philippe Presselwenger de MySports.
Et Klaus Zauk, chroniste.
Polémiste.
Ben, merci beaucoup, messieurs, d'être venus à notre podcast en salle de presse après le match. 1-0 pour Bienne, c'était le match qu'on attendait, Grégory.
Ouais, bon, deux équipes qui sont capables de jouer au hockey quand même. 1-0, non, j'aurais pas parié là-dessus. Surtout, moi, j'aimerais quand même qu'on parle directement de ce but. Parce que si on revoit la caméra depuis derrière, on va quand même se poser la question à quel moment Zurich ne regarde pas plus en détail cette vidéo-là. Et Hofer qui touche du poing et qui fait quand même un geste. Et le puck qui est dévié. Le puck qui n'était pas cadré de Yakovenko et qui termine au fond du filet. Il n'y a pas quelque chose à faire là?
Non, je sais pas, non, il faut arrêter. Il faut vraiment accepter que ces dernières 8 minutes, c'est, en anglais, on disait Bill's finest hour. J'ai jamais vu des 8 minutes de bien comme ces dernières 8 minutes. Et puis, je pense que c'était ça que Martin Steinecker a dit quand on lui a appelé, est-ce que le joueur veut jouer pour l'entraîneur? Et puis, il a dit non, il pense cette situation, c'est une inspiration. Et c'est ça ce qu'on a vu là. Pendant ces 5 minutes, et comme ils ont terminé le match, c'était une inspiration, une motivation que j'ai jamais vue à Bienne.
Mais il faut rappeler juste avant le but, Bienne avait pris une pénalité de 5 minutes, hein, Gaëtan Haas, un coup de coude sur Garretro, je crois. Et ce qui est assez fou, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça de ma vie. Il y a eu l'engagement au début de la pénalité et l'arrêt de jeu suivant c'était un hors-jeu au moment où Gaëtan Haas se retrouvait à la glace, donc il y a eu 5 minutes sans arrêt de jeu où c'était un combat de Bienne, un combat défensif. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Zurich, Bienne a fait totalement déjouer Zurich sur cette phase-là.
Tu peux donner à dire à ta rédaction, écoutez messieurs, il faut travailler comme Bienne a joué ces 8 dernières minutes. Et puis tout le monde se débrouille.
Écoute, moi, c'est toi qui m'as appris qu'il faut chercher la petite bête et la polémique depuis toutes les années. Je t'ai côtoyé, donc moi je préfère le jeu offensif alors.
Jean-Philippe, revenons sur ce but, sur cette déviation de la main. Zurich aurait dû demander le coach challenge.
Oui, on a eu on était soulagé de voir Bienne arriver à marquer après ces 5 minutes à 4-5. Évidemment, au deuxième ralenti, on a eu un doute avec Stéphane Rochette qui commentait le match avec moi, et on se demande mais pourquoi ils prennent pas le challenge? Pourquoi? Et ensuite, on a encore pu voir plus tard, juste maintenant, avant cette émission, ce qu'on voit depuis l'arrière de la cage. Puis effectivement, il y aurait eu de quoi gagner un coach challenge et continuer le match à 0-0.
Mais j'ai parlé avec Crawford et puis il a dit que eux ils ont pas vu que c'était dévié. Je sais pas ce qu'ils ont vu sur l'écran, je sais pas, mais lui il a dit on n'a pas vu.
Bon, ça a discuté quand même justement entre le banc et la tribune au moment du but. Maintenant, c'est vrai que si on se met à la place de Zurich, il reste 2 buts à jouer si tu prends ton coach challenge et que les images sont non concluantes parce qu'elles sont forcément mauvaises, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut imaginer qu'il y ait pas de but. Et après, le match est terminé parce que c'est 2 minutes de box play. Et donc, je peux aussi imaginer que dans la pesée d'intérêt, Zurich s'est dit, on a plus de chances peut-être de marquer durant nos dernières minutes. Mais bon, le problème, c'est que Bienne a eu plus de tirs cadrés durant les 2 dernières minutes sans gardien à Zurich que sur la cage d'Aris Atari.
tu partages, Cyril? C'était une situation un peu ambigu.
Alors moi j'étais en train d'écrire, j'ai pas revu les ralentis, donc vous m'apprenez maintenant que ce but est sujet un petit peu à discussion. En effet, est-ce que Zurich ne l'a pas vu, ce qui serait grave quand même de la part d'un staff d'une équipe de pas voir ça, si effectivement il y a un but du point, ou alors est-ce que, comme Greg l'a dit avant, est-ce que ils étaient pas sûrs de leur coupe, ils voulaient éviter une pénalité, je sais pas. Voilà. C'est vrai que finalement, on pouvait un peu s'y attendre, un peu dès le début de ce match, on pouvait se dire le premier qui marque va gagner la partie. Bon, finalement, il y a eu besoin que d'un but, mais on peut aussi se dire finalement avec des gardiens comme ça, ça peut être qu'un but un peu bizarre qui va tomber. Et ouais, c'est ce qui est arrivé, quoi. Donc voilà, je pense pour Bienne, c'était une grosse victoire, très émotionnelle. Il y avait vraiment beaucoup d'électricité, des émotions et tout ça. Et pour la suite, forcément, c'est vraiment du bonus.
Moi, j'ai passé une soirée magnifique. Je crois que c'est pour ça que j'aime le hockey. C'était un match d'une intensité. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais il y avait deux belles équipes qui jouaient du bon hockey, qui se respectent. C'était pas vraiment le cas. J'ai peut-être pas le bon exemple contre Berne, mais non, on sent qu'il y a deux équipes qui se respectent, qui ont envie de jouer. Il y a du jeu physique, mais dans les limites. Il y avait de l'intensité, il y avait de la rapidité. Même quand il y a les quatrièmes blocs, on n'avait pas des fois cette baisse de niveau, de rythme. Là, ça continuait ça toute la soirée. Et puis bon, voilà, quoi, avec deux autres gardiens, il y a peut-être 3-3 après, bien 4-4 après 55 minutes. Mais ça doit être très frustrant pour les attaquants de déjà passer le mur défensif, parce que les deux équipes sont très bien organisées, passer le mur défensif. Puis quand on y arrive, on tombe sur Settery ou Rubec qui, visiblement, n'avait pas trop envie de prendre des buts. Or, eux, quand ils ont pas envie, généralement, ça donne comme ce soir. C'est comme l'a dit Cyril, hein, c'est un but qui tombe un peu de nulle part. Hein, un tir qui part un peu de côté, une déviation. Bon, Grégory est très catégorique. Hein, je sais pas s'il serait autant, si c'était, on serait à la BCF Arena dans la même situation pour un match de Fribourg. Après, ça, c'est qu'une question d'interprétation personnelle.
Hein. Je suis très, très catégorique sur le fait que Zurich aurait dû aller demander un coach challenge.
Là, on est d'accord.
Ça, je suis complètement catégorique là-dessus.
J'admire ton objectivité.
Par contre, après la décision de l'arbitre, alors là, on a aussi appris depuis le début de ces playoffs à ne pouvoir jurer de pas grand-chose quand ils vont à la vidéo, quand ils vont essayer de voir les pixels, ce qu'ils veulent dire. Donc non, je préjuge de rien sur l'issue de la vidéo. Par contre, oui, ils doivent aller à la vidéo. Moi, je suis assez convaincu de ça, par contre.
Oui, mais c'est quand même l'énergie de Bienne qui a décidé ce match. Et puis, par la stupidité ou je sais pas quoi, de Zurich, quoi. Il faut quand même pas...
L'arrogance.
Klaus, on a quand même le droit de faire des erreurs. Ok, c'est un petit peu un jeu d'erreurs, parfois. Et puis, il y a quelque chose dans le 4 contre 5, là, le 5 contre 4 pendant 5 minutes côté Zurich, quoi, qui m'a extrêmement surpris. C'est de voir la quatrième ligne zurichoise en power play avec Gehring et un autre défenseur derrière, alors qu'on était en plein milieu. Donc on était après 2 minutes 50 et quelques, et Crawford envoie Marlon Graff, Reto Scheppi et Nicolas Bechler face au box play biennois, qui faisait du bon job, qui était agressif, qui allait en overload pour aller chercher ses pucks dans les bandes. J'ai trouvé vraiment extrêmement surprenant. Et bah évidemment, bah ils ont perdu le puck, ils ont rien fait, ils ont bouffé 30 secondes, quoi. Est-ce que les gars à ce moment-là du match, ils doivent pas, ils ont des ressources, ils ont deux grosses équipes de jeux de puissance. Est-ce qu'ils ont pas autre chose à envoyer que la quatrième ligne sur à 5 minutes? J'avais jamais vu ça.
Non, ils doivent quand même gérer les énergies, et puis il faut donner confiance aussi à la quatrième ligne. Il faut pas oublier que ce soir on a vu le vrai hockey. Le hockey qu'on a vu contre Berne, c'était la folklore. Berne, ils ont essayé de jouer ce que Zurich joue, mais folklorique. Mais ce soir, c'était Zurich qui a joué plus ou moins parfait. Et puis, ils ont géré les énergies. Et puis, il faut aussi utiliser le quatrième bloc. S'ils marquaient pas et jouaient tout le temps avec le premier et deuxième bloc, tu disais, ah, mais Zurich, ils sont quatre lignes. Ouais. Ils ont pas joué les quatre lignes.
On est dans la politique fiction à la Watson Tang, la magnifique.
Là, tu cherches un polémique. Ouais, c'est Klaus qui désamorce. C'est bon d'avant.
C'est joli, hein.
Mais Cyril, c'est ce que disait Étienne, c'est ce que disait Gaëtan à la fin du match. Comparé à la série précédente contre Berne, cette fois-ci, Bienne peut jouer son jeu.
Ouais, alors je m'emballerai pas trop après un seul match, quoi, parce que aussi quand tu disais avant Laurent que c'est deux équipes qui se respectent et tout ça, moi j'attends quand même de voir l'évolution de la série. Hein, je suis pas sûr que ça va jouer aussi gentil qu'aujourd'hui. Le premier match, j'avais l'impression que déjà les deux équipes voulaient éviter les pénalités, donc vraiment pas exagérer, pas trop monter trop haut dans les émotions. Mais pour la suite, moi, je suis pas sûr que ça va rester aussi calme que ça. Après, voilà, c'était un peu... j'ai aussi eu le premier match contre Berne en quart aussi. C'était un petit peu comme ça, l'observation, pas trop d'émotions. Et puis après, ça s'est un peu plus enflammé.
Moi, je pense que normalement, là, quand tu joues chez toi, c'est pas vraiment un avantage là, les playoffs. Mais cette fois, je crois quand même que ça va être une série où l'énergie va être très importante. Et je crois bien, ici, chez eux, ils ont plus d'énergie que normal. Ça peut être décisif.
Justement, en parlant d'énergie, moi, il y a un joueur qui m'a beaucoup manqué ce soir, si je dois voir d'un point de vue neutre, ça va faire plaisir à Laurent. C'est Yoho Lamiko, qui est un joueur que je trouve fantastique à avoir joué, qui justement, t'as utilisé plusieurs fois le mot énergie, Klaus, depuis tout à l'heure. Moi, il m'a manqué ce soir et je pense qu'il a beaucoup manqué à Zurich. On a eu un Garrett Rowe. Alors, il a été victime d'un 5 minutes. Bon, alors ça, on peut aussi se poser la question si vraiment ça mérite. Mais là, bon, ça n'a pas eu de conséquences, donc passons. Mais Lamiko a beaucoup manqué à Zurich, je pense, parce que cette ligne qui forme avec Texier et Baltisberger, c'est une des meilleures lignes du championnat depuis qu'il l'a formé Crawford au milieu du mois de janvier. Et il a été annoncé malade. Je sais pas ce que ça veut dire malade à cette période de l'année. Ça peut vouloir dire commotion cérébrale, out pour 6 mois, comme rien.
On sait pas si c'est malade dans le haut ou le bas du corps.
Exactement. Donc, ça peut aussi être un facteur pour la suite de cette série, de voir est-ce que Yoho Lamiko pourrait être capable de revenir. Parce que Garrett Rowe, malheureusement, il a pas le même impact, surtout en playoff.
Moi, je pense pas que ça veut être décisif si un joueur manque ou pas. Si c'est un jeu d'équipe, là, ok, c'est dans les playoffs. Et moi, je pense pas que ça veut être décisif si un des deux gardiens peut plus jouer. Oui. Mais les autres, je pense pas que ça veut être décisif.
Bon, maintenant, enfin, c'est vrai, pour en revenir à l'avantage de la glace. Pour Bienne, c'est quand même un gros paramètre qui a changé. C'est que par le passé, il maîtrisait jamais ses matchs importants à domicile. Et puis là, depuis cette saison, tout à coup, ça s'est bien passé contre Berne. Ils ont bien réussi à négocier le premier match à la maison. Ils ont réussi à gagner les matchs qu'il fallait chez eux. Et puis de nouveau, ce soir, premier match de la série, un match important qu'il faut gagner justement pour pas finalement mettre l'adversaire dans une position confortable. Ils l'ont aussi bien maîtrisé, ils l'ont gagné, quoi.
Je voulais ouvrir le chapitre des gardiens avec trois petites questions. Volontiers votre avis. D'abord, est-ce qu'on a affaire aux deux meilleurs gardiens du championnat selon vous dans cette série?
Oui.
Oui.
clairement.
Ouais, je pense que c'est bon. On oublie Giannoni quand même. Là, en répondant de manière aussi catégorique, on oublie quand même le gardien qui gagne tous les championnats ou presque, sauf une année de temps en temps. Il décide qu'il veut pas aller en vacances. Il veut aller en vacances un petit peu plus tôt. Il fait pas champion. Donc, j'ai envie de dire peut-être. Non, moi, il y a Giannoni quand même. Je peux pas jouer contre Giannoni.
Ouais, moi, je suis du même avis que Greg. C'est clair que j'ai envie de dire aussi oui, c'est les deux meilleurs, en tout cas sur l'ensemble de la saison, bien sûr que c'est les deux meilleurs, mais en play-off, peut-être sur une demi-finale ou une finale des play-offs, moi je peux pas miser contre Giannoni.
Et j'ajouterais que si on a Giannoni, on a une licence étrangère supplémentaire dans le champ, tandis que Ebienne et Zurich n'ont que 5 joueurs étrangers dans le champ. Donc Giannoni, pour moi, est quand même plus important que Rubec et Cédric, si bon soit-il.
Non, pas du tout. Le hockey, ça se joue en présence. Et on pense toujours au passé. Bien sûr, Giannoni a gagné ses titres au passé, mais Giannoni, il est loin de ces deux gardiens de ce soir. Merci, les deux ce soir, ils étaient les meilleurs gardiens que j'ai vus de loin cette saison.
Bon, je vais pas pouvoir, qu'est-ce qu'on va ajouter là-dessus? Ouais, oui, en plus, j'ai déjà parlé pendant 60 minutes, donc, je vais pas faire trop long. Mais, ce que dit Klaus, c'est juste. Et puis, on peut pas enlever Giannoni non plus. La chose, maintenant, qu'on peut peut-être ajouter sur les performances des gardiens, c'est que t'es toujours aussi bon que les gars qui sont devant toi. Et puis, ce soir, il y a une performance défensive, que ce soit Bienne ou Zurich, qui permet de mettre le gardien dans des bonnes situations. On va dire que Bienne a réussi à se créer beaucoup plus d'occasions, des expected goals, des buts escomptés plus haut que Zurich. Et c'est là où Rubets a été vraiment extraordinaire. Il y a eu une fois contre Salinen, une fois contre Kessler. enfin, il y a ces big saves, ces choses vraiment impressionnantes. Sateri, il en a fait un contre Andrighetto, je sais plus qui c'est qui fait la connerie, là. Je crois que c'est Radgeb qui essaye, ou Löw, qui essaye de faire un petit truc.
C'est Löw, tu penses toujours, c'est Radgeb qui fait des conneries, mais c'est pas faire ça, hein.
C'est ça, hein. Tu penses que parce que c'est fribourgeois, c'est ça. Alors, indécrottable. Enfin, voilà. Donc voilà. Moi, les deux, c'était un régal à avoir joué, quoi. Alors, c'est un peu un casse-tête. J'ai discuté de ça avec Texier à la fin du match, là, à l'interview. Et lui, très calme, il me dit, bon, pas de problème, faut juste leur enlever les yeux, puis ça ira.
Il faut peut-être penser à mettre des
handicaps. On parle pas de mutilation, hein. On va juste mettre du trafic devant le goal. Attends, je vous vois venir, hein.
Laurent, bon, je connais déjà ta réponse. Sûrement, mais en quart, on disait qu'il y avait apparemment la volonté du HC Bienne de faire deux Harry, un Joran. On oublie en demi-finale, c'est Harry.
Oh là, il y a pas de discussion possible. Oui, c'était le plan contre Berne, ben aussi pour Joran van Bottelberg qui revient après une année de blessure, qui n'est pas encore totalement dans le rythme, mais il fallait quand même le mettre déjà à l'imprégner dans les playoffs. Berne, c'est rien contre le SCB, mais c'est un bon adversaire pour van Bottelberg. C'est pas vraiment passé comme on l'aurait souhaité pour lui, mais non, là je pense ce serait fou quand même que samedi tout d'un coup Antti Tormenon qui décide de mettre van Bottelberg devant les buts.
Tu peux dire dans une phrase, Harry c'est un gardien, tu peux dire on a gagné à cause de lui. Van Bottelberg, tu vas dire on n'a pas perdu à cause de lui. C'est ça la différence.
Non, moi je crois pas une seconde à cette théorie que tu nous sors depuis des jours et des jours, hein, Lindon, qui nous explique cette histoire de 2-1-2-2, là. Je sais pas où t'as entendu ça, dans quel troquet t'as entendu ça, mais moi j'y crois pas en tout cas.
Greg, il faut s'attendre à quoi pour maintenant la suite de la série, d'abord samedi à Zurich?
Moi, ça va être intéressant de voir Zurich, va devoir un tout petit peu plus se découvrir, qu'est-ce qu'ils ont peut-être fait là. Là, ils ont beaucoup mis de puck au fond, ils ont essayé d'aller chercher longtemps derrière la défense de Bienne. À la maison, je pense Bienne va un peu pouvoir attendre un tout petit peu plus, peut-être, cette équipe de Zurich, qui va devoir un peu plus se découvrir. Mais, pour Bienne, faut juste aller tranquille là-bas. Il y a pas grand chose à changer. Bienne a fait un match très solide ce soir. Derrière, bah, comme on l'a dit avant, quand t'as un gardien comme Sateri, tu pars bien dans le match. Donc, moi, je pense que Bien a tout fait juste ce soir. Et maintenant, bah, la pression est du côté de Zurich, quoi. Et il va falloir gagner le match des énergies. C'est ça, Klaus?
Moi, je pense que Zurich va gagner samedi parce qu'ils veulent avoir un petit peu plus d'énergie. Ils veulent risquer un petit peu plus. Et Bien est peut-être un tout petit peu moins agressif parce qu'ils sont à Zurich, pas à Bienne. Mais quand on revient à Bienne, Bienne va de nouveau gagner.
Ah ben, il y a de quoi sortir son deuxième pilier et puis se faire quelque chose, là, alors. Bon, je l'ai déjà plus, donc ça va pas, mais...
Je vous propose de parler forcément quand même de l'actualité de la semaine, cette nouvelle tumeur découverte chez Antti Tormenon, l'entraîneur biennois. Il va devoir suivre 6 mois de thérapie à nouveau. On va rappeler juste quelques faits dans le calendrier. Les joueurs l'ont appris mardi en fin de journée dans une réunion exceptionnelle, si on veut. Ça a été dévoilé à la presse et aux fans mardi soir. Mercredi à l'entraînement, il était là, il a donné l'entraînement. Ils ont demandé aux joueurs mardi de digérer ça à leur manière durant la soirée et d'arriver à l'entraînement sans plus y penser. Il a été demandé aux médias ce jeudi soir de ne pas interviewer Antti Tormenon et de ne pas poser des questions volontairement sur ce sujet aux autres joueurs. Voilà, forcément, on souhaite bien du courage et plein de force à Antti pour cette thérapie qui commence. Greg, à quel point cette nouvelle peut jouer un rôle? Ça peut changer quelque chose dans l'équipe, dans le dynamisme?
Ben déjà, avant de répondre à ta question, je voulais juste dire qu'il y a eu une jolie action ce soir des deux copes. Je sais pas si c'était concerté ou non, mais j'ai l'impression que oui.
Quand même, ouais.
Avec des banderoles sorties des deux côtés, toute la patinoire a chanté. Puis je me dis que on est volontiers critique avec les supporters quand ils dérapent, mais aussi, ben, là, c'était une jolie action des deux côtés. Je pense que je voulais juste le mentionner.
Tu fais bien. C'était à la 12e minute de jeu et standing ovation dans la Tissot Arena. C'était
exactement. Ben, après, en playoff, on sait les joueurs et les équipes aiment bien s'attacher à des symboles, s'attacher à certaines choses qui soudent tout le monde. Il y a certaines fois des petits challenges à l'interne, des peluches à terrasser ou des choses comme ça. Il y a tout le temps quelque chose sur lequel s'accroche l'équipe. Ben là, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de chercher trop loin pour avoir un objectif commun et de se dire, ben voilà, on a une vraie raison de tirer tous à la même corde. Après, faut pas non plus peut-être en faire des caisses avec ça, dans le sens où bah, il va falloir jouer des matchs, il va falloir gagner des matchs, et ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. Mais bah, je pense que si les joueurs peuvent se coucher sur un peu de plus de temps en temps parce qu'ils ont un surplus de motivation, ils vont pas s'en priver.
Alors tu dis pas faire des caisses là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais les jeux, c'est pas le genre d'équipe à trop monter, trop descendre. À Bien, ils ont vécu ça pendant plusieurs années, Kevin Schlepfer, et puis les joueurs étaient cramés à la fin de la saison, tellement que ça montait, tellement que ça descendait. Là, c'est vrai qu'Antitourmenen, c'est calme. Par contre, Antitourmenen a un lien très fort avec les joueurs. C'est quelqu'un qui a un coach au niveau des entraînements, au niveau de la stratégie tactique et tout. Il a rien de... C'est un entraîneur comme un autre. Mais c'est vrai que sa faculté de communication, c'est quelque chose d'assez unique. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un qui communiquait aussi bien que ses joueurs. Et je pense que c'est surtout là que ça a touché les joueurs. Si c'est un entraîneur canadien qui est là depuis le début de l'année et puis qui fait curler dans le vestiaire, bon, ça touche l'équipe, mais voilà, quoi, ça irait pas plus loin. Mais je pense que c'est une très grande, tu parlais d'énergie, ça c'est une source d'énergie, quoi. C'est une grosse source d'énergie du côté de Bien, savoir que finalement là, il y a tout le monde qui a un objectif, c'est même pas de gagner le titre, c'est de le faire pour Antti, parce qu'il y a un vrai lien entre l'équipe et puis l'entraîneur.
Oui, moi je pense que ça fait partie de la motivation du Bien, mais il faut aussi un constant de respect vis-à-vis de Antti Tormenen. Il faut maintenant se concentrer sur le hockey. C'est maintenant le hockey. Aussi comme respect vis-à-vis de Antti Tormenen et sa vie privée.
Pourquoi t'as posé cette question, Lindon?
Je voulais juste rappeler au passage, parce qu'on est à 21 minutes d'enregistrement, t'es venu en voiture, Greg?
Oui.
Parking Media.
Non.
Non, oh là là, ah, t'as de la chance parce que Laurent, on se souvient, hein, parking média, faire une stamtiche après un match, ouais, on n'arrive pas forcément à sortir.
Faire du rallye pour sortir.
Ouais. C'est pour ça qu'on va pas prolonger cet épisode extrêmement si je veux essayer de rentrer chez moi en voiture. Mais quand même, un petit tour de table. Forcément, je dois vous demander votre pronostic sur cette série. Vu qu'on est autant que ça ce soir autour de la table. Klaus, qui c'est qui va gagner cette série entre Bien et Zurich?
Avant ce match, je pense que Zurich va gagner, mais comme j'ai vu Bien, ce soir, c'est Bien qui va passer en finale.
C'est beau. Jean-Philippe?
Avant ce match, je pensais honnêtement que Zurich allait gagner cette série 4-2, honnêtement. Et après ce match, honnêtement, allez-y, je vais finir. Ah, mais il y a le miracle et le diamant, Nino. Bonjour. Après ce match, je pense qu'honnêtement, Zurich va toujours gagner cette série parce que ils ont raté des trucs. Il y a des choses qui n'ont pas été nettes. Typiquement, Texier, il y a un moment où il a la cage ouverte à 5 contre 4. Il frappe pas direct. Pourtant, il a un tir sur réception exceptionnel. Il y a plein de petites choses comme ça. Et une fois, là, il y a eu le coup de poing d'Offert. Les coups de chance, ça va pas aller à chaque fois. Et une fois, ça va mal se passer ici.
Craig?
Avant cette soirée, je pensais que c'était Zurich qui gagnait 4-2. J'en suis toujours là, mais je fais un tout petit peu moins le malin qu'avant ce match.
C'est noté, Laurent.
Alors, avant cette série, moi, je pensais que ça allait aller au septième match, et puis je suis toujours convaincu que ça va aller au septième match. Et puis après, Jen que pourra. Non, c'est un septième match, après, ça sera... C'est toujours une loterie, un septième match. Hein. Dès la première minute, c'est des prolongations qui commencent. Donc moi, je vois un septième match, et puis là, ça sera un des plus beaux matchs du siècle.
Carrément.
Dans cette ligue. Quoi.
Cyril,
avant cette série? Non, moi, je vois une victoire en six matchs, une série qui ressemble un peu dans le déroulé à celle contre Berne, quoi, finalement.
Parfait.
Donc, eh bien, victoire de Bien en six matchs.
Ouais. C'est quand même un stamtisch qui correspond à la réalité de la vie. Parce que celui entre nous, qui est un vrai rédacteur en chef, il a pris la parole le plus longtemps.
Et puis c'est le seul qui a pas donné qui a pas répondu à la question.
Ah, il faut toujours tempérer.
Hein, si jamais on peut enchaîner, moi, je passe par la Neuville, si tu veux, je te ramène.
T'es en parking média, toi?
Non.
Non, ah ben, vous avez de la chance. Hein. Moi, je commence.
C'est l'expérience.
Ouais, on a Simon Graf qui passe par là du tag de Sandzeiger. Ouais. Est-ce qu'il va nous dire, tu penses, son pronostic sur cette série, Simon?
Ouais, c'est un Zurichois qui ne peut pas ouvrir la porte comme l'équipe.
Est-ce que Simon Graf, donc du Tagesanzeiger, la plume, le biographe, le confident de Roger Federer, il faut pas oublier, hein, bien sûr. Simon, cette série, pour toi, c'est ton pronostic, combien de matchs et qui va gagner?
Je pense que si Zurich ne marque pas, ils vont pas gagner la série. Ça va être difficile. Je pense que ça va. On va voir 7 matchs.
Mais qui va gagner?
Zurich en 7 matchs.
Toi, il a donné un. Lui, il n'est pas rédacteur en chef, il a donné un nom. Quoi. Merci, Simon. Oui.
Eh bien, merci à vous tous.
Et bon retour.
Ouais, merci,
au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé à la Stammtisch Express ce soir. Environ 25 minutes d'épisode pour celles et ceux qui restent sur leur faim. Là, la perche est trouvée. Hein. Forcément, il y a un autre podcast qu'on peut écouter cette semaine, c'est Cold Facts, où tu parles, sauf erreur, Greg, aussi de la série Entre Ajoie et Chaudfond.
Exactement, on a parlé à Vincent Costet d'Arc Info et Rafik Youmdian du quotidien jurassien pour présenter la série Entre Ajoie et Chaudfond.
Résultat de premier match.
Le premier match, victoire de Chaudfond. 3-2, c'est ça?
Exactement.
3-2, parfait. Ben, messieurs, très bonne suite de play-off à vous, à très bientôt. Merci beaucoup de votre participation.
Merci, à bientôt.
Merci, bye bye. À bientôt.
Merci. Merci.
Ciao, ciao.
C'était la Stammtisch, proposée par le Journal du Jura.